Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans cet épisode bonus du podcast de voixpoétique.com. Un épisode bonus un petit peu particulier aujourd'hui puisqu'il va être la lecture d'un long texte, à savoir le manifeste humaniste de la voix poétique. J'ai voulu écrire ce manifeste que j'écris maintenant depuis quasiment 3-4 mois. Il sera mis à disposition gratuitement sur le site voixpoétique.com. Vous pourrez le lire quand vous le souhaiterez dans son intégralité. Dans son intégralité, et pour l'instant, je vais arrêter mon explication ici et je vous inviterai à réellement écouter ce podcast jusqu'au bout, puisque à la fin de cet épisode, eh bien, je vous expliquerai à quoi il va réellement servir. L'écouter est une chose, le lire en est une autre, et donc je vous invite réellement à aller le lire dans la section qui sera accessible directement sur la première page de voixpoétique.com sous l'onglet « Manifeste ». Je vous en donne lecture. Être poète, j'incarne et j'ancre pour que jamais ne disparaissent ces pensées comme des fleurs fanant dans l'écho du temps. Cette première phrase a été une première phrase qui fait partie d'un de mes poèmes que je vous laisserai découvrir aussi également sur le site, a été le début dans mon esprit de la naissance de ce manifeste. En préambule, dans un monde où l'instantané règne en tyran, où les mots se consument dans l'éphémère des écrans, où la beauté se voit réduite à quelques secondes d'attention fugace, s'élève une voix différente. Cette voix, c'est celle de la contemplation, de la lenteur féconde, de l'approfondissement patient de l'être par la poésie. Elle refuse la course effrénée vers le néant du divertissement perpétuel pour proposer une alternative radicale, la voie poétique, comme chemin d'humanisation. Ce manifeste naît d'une conviction profonde. La poésie n'est pas un ornement de la culture, un luxe pour esthètes désœuvrés, mais une nécessité vitale pour l'âme humaine. Elle constitue l'antidote le plus puissant contre la déshumanisation croissante de nos sociétés. Plus qu'un art, la poésie représente une manière d'être au monde, une éthique du regard, une spiritualité de l'instant présent qui transfigure le quotidien en épiphanie. Depuis les premiers pas de voixpoétique.com, depuis les premiers épisodes du podcast explorant les voies secrètes de poètes tels que Rilke, Baudelaire, Rimbaud ou encore Ginsberg, une évidence s'est imposée. Nous vivons un moment charnière de l'histoire humaine où il nous faut choisir entre l'abîme de la superficialité technologique et l'élévation par la contemplation poétique. Et ce choix n'est pas neutre. Il engage notre avenir collectif, notre capacité à demeurer humain face aux forces déshumanisantes de notre époque. Notre époque souffre d'une maladie nouvelle, l'impossibilité de s'arrêter. Les réseaux sociaux agissent en miroir déformant que nous avons délibérément quitté et incarne parfaitement cette pathologie contemporaine. Sur Instagram, Voix Poétique comptait à une époque 50 000 abonnés. Ce réseau semblait offrir une diffusion idéale pour une vision poétique du monde. Pourtant, cette apparente réussite cachait un poison subtil. La transformation de la contemplation en consommation, de la méditation en marchandise. L'abandon de ces plateformes ne constitue pas une fuite, mais un acte de résistance philosophique. Car comment peut-on prétendre célébrer la lenteur de l'être sur des supports conçus pour l'addiction à la vitesse? Comment peut-on invoquer la profondeur sur des surfaces calculées pour maintenir l'utilisateur dans la superficialité perpétuelle? La poésie, dans son essence même, s'oppose radicalement à cette logique. Elle exige le temps. Elle demande le silence. Elle nécessite la rumination intérieure, cette digestion spirituelle que les anciens appelaient « meditatio ». Un poème ne se consomme pas. Il s'habite. Il ne se like pas, il se vit. Il ne se partage pas mécaniquement, il se transmet par contamination bienveillante d'âme à âme. Dans cette guerre sourde, entre l'acération technologique et la temporalité humaine, le poète assume un rôle prophétique. Il devient le gardien de ce qui, en l'homme, refuse de se laisser mécaniser. Sa mission n'est plus seulement esthétique, mais anthropologique. Maintenir vivante la capacité d'émerveillement, préserver l'espace intérieur nécessaire à la croissance de l'âme, cultiver cette part d'éternité qui sommeille en chaque être. Cette mission s'enracine dans une tradition millénaire. De Platon, découvrant dans Lyon que les poètes parlent non en vertu d'un art, mais d'une puissance divine. Aux néoplatoniciens, comme Plotin, dont je vous ai souvent parlé, explorant les extases contemplatives des mystiques orientaux, comme Dogen ou Ryokan, cultivant l'éveil par la simplicité poétique, aux grands voyants occidentaux, comme Baudelaire, perçant les correspondances secrètes du monde, une chaîne ininterrompue de témoins, atteste de cette vérité. La poésie est une voie d'accès privilégiée au mystère de l'existence. Mais cette tradition séculaire se trouve aujourd'hui menacée par une modernité qui a perdu le sens du sacré. Notre époque, dans sa course vers l'efficacité et la productivité, tend à considérer la contemplation comme un luxe désuet, voire comme une perte de temps. Elle préfère l'information à la connaissance, la communication à la communion. L'émotion à l'émotion authentique. La voix poétique que nous défendons tous, lecteurs, auditeurs ayant pris cette voix poétique, puise ses racines les plus profondes dans la philosophie platonicienne, notamment dans cette intuition géniale selon laquelle la beauté constitue le seul chemin accessible aux mortels pour s'élever vers la vérité. Le Banquet et le Phèdre nous enseignent que l'âme, face au beau, se souvient de sa nature divine et aspire à retrouver sa patrie céleste. Cette réminiscence de l'éternel à travers le temporel trouve dans la poésie son véhicule privilégié. Car le poème authentique ne décrit pas simplement le monde sensible, il révèle derrière les apparences les archétypes éternels qui leur donnent sens. Quand nous écrivons « L'automne me présente à la joie, elle m'explose ses couleurs à la figure », vous lirez dans un de mes poèmes, je ne fais pas que décrire une saison, mais je révèle l'archétype de la transformation créatrice. Cette loi cosmique, selon laquelle toute mort apparente recèle une renaissance secrète. Cette perspective platonicienne se prolonge magnifiquement dans l'œuvre des néo-platoniciens. Plotin et ses extases, où l'âme se fond dans l'un, Proclus et sa théurgie poétique, Jamblique et sa conception de la beauté comme théophanie. Ces philosophes mystiques nous ont légué une compréhension de la poésie comme pratique spirituelle, comme exercice de dépassement de soi vers l'universel. Parallèlement à cet héritage occidental, la voie poétique s'inspire profondément de la spiritualité orientale, particulièrement de la tradition zen incarnée par des maîtres poètes dont je vous ai parlé tout à l'heure comme Dogen et Ryokan. Ces figures nous enseignent que l'éveil spirituel ne passe pas nécessairement par l'accumulation de connaissances ou la multiplication de pratiques, mais peut surgir de la simple attention portée à l'instant présent. Dogen, fondateur de l'école Soto, révolutionne la compréhension de la méditation en affirmant que s'asseoir en zazen, c'est déjà être Bouddha. Cette radicalité de l'instant présent trouve son équivalent poétique dans cette capacité à saisir l'éternité dans l'éphémère, l'absolu dans le relatif. Quand nous contemplons les secondes modelant le présent nu, impermanent, nous pratiquons cette méditation dogénienne de l'ici maintenant. Ryokan, le moine poète vagabond, nous montre comment la simplicité volontaire peut devenir source d'une joie inépuisable. Sa poésie dépouillée de tout artifice révèle la beauté nue du monde. Elle nous inspire cette conviction que la vraie richesse poétique naît du dépouillement, que l'abondance spirituelle jaillit de l'acceptation de la pauvreté matérielle. Cette sagesse orientale nous apprend également l'art de l'impermanence créatrice. Contrairement à l'Occident, qui cherche souvent à figer l'éternité dans le marbre, l'Orient nous enseigne que c'est précisément dans l'acceptation de l'éphémère que se révèle l'éternel. Embrasser l'éphémère dans sa splendeur fugace, c'est danser avec l'instant qui s'envole. Encore une fois, comme le disait un de mes poèmes. La voix poétique contemporaine ne saurait ignorer l'apport décisif du symbolisme français, mouvement qui a révolutionné notre compréhension des rapports entre le visible et l'invisible. Baudelaire, avec sa théorie des correspondances, nous a ouvert les yeux sur cette vérité essentielle. Le monde sensible n'est qu'un système de symboles renvoyant à des réalités suprasensibles. Cette vision symboliste transforme radicalement le rôle du poète. Il n'est plus seulement celui qui décrit ou qui exprime, mais celui qui déchiffre. Il devient le traducteur de l'invisible, l'herméneute des signes secrets que la nature ne cesse de nous adresser. Quand nous percevons l'essence de l'invisible, quintessence de l'élément terre se fondant dans le vent, nous pratiquons cet art baudelairien de la correspondance universelle. Mallarmé pousse cette logique jusqu'à son terme en concevant le poème comme création d'une réalité supérieure au réel. Pour lui, peindre non la chose, mais l'effet qu'elle produit, revient à substituer au monde donné un monde créé par la conscience poétique. Cette ambition métaphysique de la poésie, cette prétention à rivaliser avec la création divine elle-même, irrigue encore aujourd'hui notre propre pratique poétique. Les symbolistes, auxquels j'aime souvent dire que j'appartiens, nous lèguent également cette conception musicale de la poésie qui fera florès au XXe siècle. « De la musique avant toute chose », proclame Verlaine. Cette priorité accordée au rythme sur le sens, à la suggestion sur la description, à l'évocation sur la démonstration, caractérise encore notre approche contemporaine de l'écriture poétique. Dans un monde obsédé par l'urgence, la contemplation devient un acte révolutionnaire. Elle affirme, contre tous les impératifs de rentabilité et d'efficacité, la valeur absolue de la gratuité. Elle revendique le droit à la lenteur dans une société de la vitesse, le droit au silence dans une civilisation du bruit, le droit à la profondeur dans une culture de la surface. Cette révolution contemplative ne se contente pas de critiquer l'existant, elle propose une alternative concrète face à la frénésie des réseaux sociaux Elle oppose la méditation poétique face à l'information superficielle. Elle oppose la connaissance profonde face à la communication instrumentale. Elle oppose la communion authentique. La contemplation poétique se révèle ainsi être une forme de résistance passive particulièrement efficace. Elle ne combat pas l'adversaire sur son terrain, mais lui oppose un terrain différent. Elle ne crie pas plus fort que lui, mais instaure un silence plus profond. Elle ne va pas plus vite, mais révèle la beauté de la lenteur. La contemplation poétique constitue d'abord une école du regard. Elle nous apprend à voir autrement, à percevoir dans l'ordinaire l'extraordinaire, dans le familier l'inouï. Cette éducation de la perception ne va pas de soi dans un monde qui nous bombarde d'images jusqu'à la saturation. Elle exige un véritable travail de désintoxication visuelle, une reconquête de la capacité d'émerveillement. Et ce travail passe par la pratique de ce que nous pourrions appeler la contemplation active. Il ne s'agit pas de la passivité béate du consommateur de spectacle, mais de l'activité intense du contemplateur qui participe créativement à ce qu'il regarde. Contempler un coucher de soleil, ce n'est pas le subir, ce n'est pas seulement ça, c'est entrer en dialogue avec lui. C'est le laisser nous transformer autant que nous le transformons par notre regard. Cette contemplation active développe ce que les mystiques appellent les yeux du cœur. Elle nous permet de percevoir, au-delà des apparences sensibles, les réalités spirituelles qui les habitent. Elle transforme le monde en livre ouvert où chaque phénomène devient signe, chaque événement devient symbole, chaque rencontre devient révélation. La contemplation poétique nous enseigne également l'art difficile du silence, non pas le silence vide de l'absence, mais le silence plein de la présence. Ce silence, qui précède la parole et lui donne son poids, ce silence qui suit la parole et lui permet de raisonner, ce silence qui habite la parole et lui confère sa profondeur. Dans une civilisation du bavardage perpétuel, ce silence devient subversif. Il affirme qu'il existe des réalités qui ne peuvent être dites, des expériences qui ne peuvent être communiquées directement, des vérités qui ne peuvent être que suggérées. Il revendique le droit au mystère dans un monde qui prétend tout expliquer, le droit au secret dans une société de transparence totale. Ce silence contemplatif ne doit pas être confondu avec le mutisme ou la misanthropie. Il s'agit au contraire d'un silence fécond, créateur et communicant. C'est le silence du poète qui, ayant longuement écouté le monde, peut enfin lui répondre. C'est le silence de l'amoureux qui, ayant épuisé les mots, découvre d'autres moyens de dire l'amour. C'est le silence du mystique qui, ayant touché l'ineffable, apprend à le faire rayonner par sa seule présence. La modernité nous a habitués à concevoir l'être humain essentiellement comme un homo economicus, un être de besoin et d'intérêt mu par la recherche de son profit et de son plaisir. Cette anthropologie réductrice explique largement la crise spirituelle de notre époque. En ramenant l'homme à sa seule dimension utilitaire, elle l'ampute de ce qui fait sa spécificité, sa capacité à transcender l'utilité immédiate pour s'ouvrir à la gratuité, à la beauté et au sacré. La voie poétique propose une anthropologie alternative, celle de l'homo poeticus. Cet être humain authentique ne se définit pas prioritairement par ce qu'il possède ou consomme, mais par sa capacité à créer du sens, à transformer le réel par le regard, à transfigurer l'existence par la parole. Il ne subit pas passivement le monde, mais participe activement à sa création permanente. Cette conception poétique de l'humanité n'est pas élitiste. Elle ne réserve pas la créativité à quelques artistes privilégiés, mais la reconnaît comme dimension fondamentale de toute existence authentique. Chaque être humain, par sa seule présence consciente au monde, exerce une fonction poétique. Il nomme, il signifie, il transforme. Il est poète dans la mesure même où il est humain. Plus profondément encore, la poésie participe à l'anthropogénèse, c'est-à-dire au processus même par lequel l'humanité advient à elle-même. L'histoire de l'humanité n'est pas seulement l'histoire de ses techniques ou de ses institutions, mais d'abord l'histoire de ses manières de dire le monde, de le chanter et de le célébrer. Les premiers humains ne se sont pas contentés de fabriquer des outils, ils ont inventé les mythes, les rites, les chants, qui donnaient naissance à leur existence. Ils ont découvert que vivre humainement, c'est vivre poétiquement. C'est habiter le monde comme une maison de sens et non comme un simple réservoir de ressources. Cette dimension anthropogénétique de la poésie explique pourquoi elle résiste si bien à toutes les tentatives de liquidation. On a pu prédire sa mort à l'avènement de la prose, puis de la science, puis des médias de masse, puis du numérique, mais elle renaît toujours sous des formes renouvelées parce qu'elle répond à un besoin anthropologique fondamental, celui de transformer l'existence brute en existence signifiante. La poésie assume également une fonction sotériologique, c'est-à-dire salvifique. Face aux forces de déshumanisation qui menacent notre époque, elle constitue un refuge, un recours, une ressource. Elle sauve non pas en proposant des solutions techniques aux problèmes matériels, mais en maintenant vivante la dimension spirituelle de l'existence. Cette salvation par la poésie opère selon plusieurs modalités d'abord. Elle arrache l'individu à l'isolement de la subjectivité en l'ouvrant à l'universalité de l'expérience humaine. Le lecteur de Baudelaire ou de Rilke découvre qu'il n'est pas seul à éprouver l'angoisse existentielle ou l'aspiration vers l'idéal. Il entre en communion avec une fraternité invisible de tous ceux qui, à travers les siècles, ont partagé les mêmes questionnements. Ensuite, la poésie transfigure la souffrance en la transformant en beauté. Elle ne supprime pas la douleur, mais elle lui donne sens. Elle révèle que nos blessures peuvent devenir source de lumière, que nos échecs peuvent se muer en expériences fécondes, que nos limites peuvent s'ouvrir sur l'infini. Enfin, la poésie réconcilie l'homme avec le temps. Dans une époque qui est obsédée par l'éphémère et terrorisée par la mort, elle révèle la dimension d'éternité qui habite chaque instant vécu en pleine conscience. Elle nous apprend que l'éternité ne se trouve pas après le temps, mais dans le temps. Dans cette qualité particulière de présence qui transforme l'instant en kairos, en moment privilégié de révélation. L'une des intuitions les plus profondes de la voix poétique contemporaine concerne la beauté paradoxale de l'éphémère. Contrairement à l'esthétique classique qui cherchait la beauté dans la permanence et la perfection achevée, nous découvrons une beauté plus subtile dans l'impermanence à l'inachèvement. Cette esthétique de l'éphémère trouve son origine dans la sensibilité japonaise au mono no aware, cette tristesse des choses qui naît de la conscience aiguë de leur caractère transitoire. Mais elle se nourrit également de la tradition occidentale, depuis Héraclite et son tout cool, jusqu'au poète moderne de l'instant fugace. Embrasser l'éphémère dans sa splendeur fugace, c'est danser avec l'instant qui s'envole. Vous proposez aussi également un de mes poèmes. Cette phrase résume parfaitement cette attitude esthétique nouvelle. Il ne s'agit pas de pleurer sur la fuite du temps, mais de célébrer la beauté unique de chaque moment qui passe. Il ne s'agit plus de regretter ce qui meurt, mais de s'émerveiller de ce qui naît sans cesse. Cette esthétique de l'éphémère engendre naturellement une mélancolie particulière que nous pourrions qualifier de créatrice. Il ne s'agit pas de la mélancolie pathologique qui paralyse et détruit, mais de cette mélancolie féconde qui stimule la création et approfondit la conscience. J'écrivais aussi également « L'automne me présente à la joie, elle m'explose ses couleurs à la figure, la mélancolie m'inspire cette joie d'une tristesse depuis longtemps acceptée, aimée et maîtrisée, j'aime l'automne. » Ces vers illustrent parfaitement cette mélancolie positive qui ne fuit pas la tristesse, mais la transforme en source de joie spirituelle. Cette mélancolie créatrice nous apprend que les sentiments, prétendument négatifs, peuvent devenir, par l'alchimie poétique, source de beauté et de sens. Elle nous révèle que l'acceptation de nos limites et de notre finitude, loin de nous diminuer, peut nous ouvrir à une plénitude insoupçonnée. Paradoxalement, cette célébration de l'éphémère débouche sur la découverte de l'éternité. Non pas l'éternité comme durée illimitée, mais l'éternité comme qualité intensive du présent. Il existe des instants si pleins, si riches en signification, qu'ils semblent contenir toute l'éternité. Cette expérience de l'éternité, dans l'instant, constitue le cœur même de l'expérience mystique poétique. Elle peut surgir dans les circonstances les plus ordinaires, devant un coucher de soleil, au détour d'un vers, dans le silence qui suit une parole juste. Soudain, le temps se dilate, l'espace s'approfondit et l'âme touche cette dimension de l'être qui échappe aux catégories habituelles de la temporalité. Ces moments d'éternité ne peuvent être provoqués volontairement, mais ils peuvent être préparés par une éducation appropriée de la sensibilité. La contemplation poétique constitue précisément cette éducation. Elle nous apprend à être disponible à l'imprévisible, ouvert à l'inattendu, réceptif aux signes que nous adresse le mystère de l'existence. La voie poétique propose une spiritualité originale qui, sans renier les traditions religieuses, s'en affranchit pour puiser directement aux sources de l'expérience mystique universelle. Cette spiritualité laïque ne s'oppose pas aux religions constituées, mais elle refuse de s'enfermer dans leurs systèmes doctrinaux et leurs cadres institutionnels. Cette approche permet de retrouver l'essence commune de toutes les grandes traditions spirituelles. La quête de transcendance, l'expérience de l'unité, l'ouverture au mystère, la transformation de la conscience. Elle révèle que ces expériences fondamentales peuvent être vécues en dehors de tout cadre confessionnel, par la seule pratique de la contemplation poétique. Cette spiritualité poétique se caractérise par son non-dogmatisme. Elle ne prétend pas à détenir une vérité définitive, mais cultive au contraire l'art du questionnement perpétuel. Elle sait que le mystère de l'existence ne peut être épuisé par aucun système, aussi sophistiqué soit-il, et que la vraie sagesse consiste à demeurer ouvert à l'inconnu. Cette spiritualité laïque n'en est pas moins authentique pour autant. Elle accède à une véritable expérience du sacré, mais d'un sacré débarrassé de ses oripeaux théologiques et rituels. Ce sacré poétique se manifeste dans la beauté d'un paysage, l'émotion suscitée par un poème, la communion avec une œuvre d'art, la rencontre avec un être exceptionnel. Ce sacré immanent ne renvoie à aucune divinité transcendante, mais révèle la dimension de transcendance qui l'habite, l'immanence elle-même. Il nous apprend que le divin, s'il existe, ne se trouve pas dans un au-delà inaccessible, mais dans l'ici et maintenant, dans cette réalité même que nous habitons et qui nous habite. Cette expérience du sacré, sans le religieux, libère la spiritualité de ses gangues superstitieuses et moralisatrices. Elle permet de vivre l'ouverture au mystère sans culpabilité, l'expérience de l'unité sans prosélytisme, la quête de sens sans fanatisme. La méditation poétique constitue la pratique centrale de cette spiritualité laïque. Elle consiste à laisser les mots, les images, les rythme, opérer leur transformation alchimique sur la conscience. Contrairement aux méditations traditionnelles qui cherchent souvent à vider l'esprit, la méditation poétique le remplit d'une qualité particulière de présence. Cette méditation peut prendre plusieurs formes. La lecture contemplative d'un poème, l'écriture inspirée, la récitation silencieuse de vers aimés, la promenade méditative dans la nature. Dans tous les cas, il s'agit de créer un espace de silence intérieur où puisse résonner la parole poétique dans toute sa profondeur. Cette pratique développe progressivement ce que nous pourrions appeler une conscience poétique, c'est-à-dire une manière particulière d'être au monde, attentive aux correspondances secrètes, sensible aux harmonies cachées, ouverte aux révélations de l'instant. Cette conscience poétique transforme l'existence quotidienne en expérience spirituelle permanente. La voix poétique propose une éthique originale, fondée non sur la loi ou l'utilité, mais sur la beauté. Cette proposition peut sembler scandaleuse, dans une époque qui oppose généralement l'esthétique et l'éthique, la beauté et la justice. Pourtant, une réflexion approfondie révèle que la vraie beauté ne peut être séparée de la bonté, que l'authentique expérience esthétique engage toujours une transformation morale. Cette éthique de la beauté s'enracine dans l'intuition platonicienne selon laquelle le beau, le bien et le vrai constituent trois aspects d'une même réalité transcendante. Elle postule qu'une action véritablement belle ne peut être moralement condamnable, qu'une existence esthétiquement réussie ne peut être éthiquement ratée. Mais qu'est-ce que la beauté authentique ? Il ne s'agit pas de la beauté superficielle décorative qui peut effectivement coexister avec la médiocrité morale. Il s'agit de cette beauté profonde qui rayonne de l'harmonie intérieure, de l'accord entre l'être et l'apparaître, de la cohérence entre les aspirations et les actes. Cette éthique de la beauté transforme l'existence elle-même en œuvre d'art. Elle invite à considérer sa vie comme un poème en cours d'écriture, comme une symphonie en cours de composition, comme un tableau en cours de création. Chaque jour devient l'occasion d'ajouter une note juste, une couleur harmonieuse, un vers bien frappé à cette œuvre totale qu'est une existence humaine. Cette esthétisation de l'existence ne doit pas être confondue avec l'esthétisme décadent qui cultive la beauté pour elle-même, en se détournant des réalités sociales et politiques. Au contraire, elle implique une responsabilité accrue car elle exige que chaque acte, chaque parole, chaque pensée contribue à la beauté du monde plutôt qu'à sa laideur. Cette approche révèle que l'éthique la plus haute ne consiste pas seulement à éviter le mal, mais à créer le bien, à ajouter quelque chose de beau et de bon à ce qui existe. Elle fait de chaque être humain un co-créateur du monde, responsable de sa part dans l'œuvre collective de l'humanité. Cette éthique de la beauté confère au poète une responsabilité particulière en tant que spécialiste de la beauté, en tant qu'artisan du beau. Il devient comptable de l'effet de ses créations sur la conscience collective. Il ne peut plus se contenter de l'art pour l'art, mais doit assumer la dimension formatrice, voire transformatrice de son travail. Cette responsabilité ne signifie pas qu'ils doivent sacrifier son existence esthétique à des impératifs moraux ou politiques. Au contraire, elle l'oblige à porter cette exigence à son plus haut niveau, car la beauté authentique est toujours moralement formatrice. Un poème vraiment beau ne peut que rendre meilleur celui qui le lit avec attention et ouverture. Cette responsabilité s'étend également au choix des thèmes et des formes. Dans un monde saturé de laideur, de violence et de vulgarité, le poète a le devoir de maintenir vivant d'autres possibles, la tendresse, la contemplation, l'émerveillement, l'espérance. Il devient le gardien de ces valeurs menacées, le témoin de ces expériences en voie de disparition. Notre époque souffre d'une forme d'anesthésie générale des consciences, bombardée d'informations, submergée de stimulations. Nous avons perdu la capacité de nous étonner, de nous émerveiller, de nous laisser surprendre par le mystère de l'existence. Cette anesthésie spirituelle constitue peut-être la pathologie la plus grave de notre temps, car elle nous prive de la source même de la joie de vivre. La voix poétique se propose de lutter contre cette anesthésie par une pédagogie de l'émerveillement. Il s'agit de réapprendre à voir, à entendre, à sentir, à goûter la beauté du monde. Il s'agit de retrouver cette fraîcheur du regard qui fait que chaque lever de soleil est un événement unique, de chaque rencontre une aventure possible, de chaque instant une épiphanie potentielle. Cette pédagogie ne s'adresse pas seulement aux enfants, mais d'abord aux adultes qui ont perdu cette capacité d'émerveillement que l'enfance porte naturellement en elle. Elle vise à réveiller l'enfant intérieur qui sommeille en chacun de nous. Cet être capable de s'extasier devant un papillon ou de rêver devant les nuages. Cette pédagogie de l'émerveillement passe d'abord par une éducation du regard. Dans une civilisation de l'image qui nous gave de spectacles jusqu'à l'écœurement, il faut réapprendre à voir. Non pas cette vision consommatrice qui absorbe passivement les images, mais cette vision créatrice qui participe activement à ce qu'elle regarde. Cette éducation du regard s'inspire de la pratique des grands peintres et des grands poètes. Elle apprend à discerner les nuances, à percevoir les harmonies, à saisir les correspondances. Elle développe cette acuité visuelle qui permet de découvrir l'extraordinaire dans l'extraordinaire, l'inédit dans le familier, l'infini dans le fini. Mais cette éducation ne se limite pas à la dimension esthétique. Elle engage une transformation complète de notre rapport au monde. Apprendre à voir poétiquement, c'est apprendre à respecter ce qu'on voit. C'est développer cette tendresse du regard qui transforme l'observation en contemplation, la curiosité en vénération. Cette pédagogie implique également un apprentissage de la lenteur. Dans un monde obsédé par la vitesse, il faut apprendre les vertus de la lenteur. Non pas la lenteur paresseuse qui fuit l'effort, mais cette lenteur féconde qui permet l'approfondissement, la maturation, l'épanouissement. Cette lenteur poétique s'oppose radicalement à l'impatience contemporaine. Elle postule que les réalités les plus précieuses ne peuvent être saisies dans l'instantané, mais demandent du temps pour se révéler. Un paysage ne dévoile ses secrets qu'à celui qui sait l'habiter longuement. Un poème n'offre ses richesses qu'à celui qui accepte de le ruminer patiemment. Cette lenteur n'est pas passive, mais intensivement active. C'est la lenteur du gourmet qui savoure, du musicien, de l'amoureux qui contemple. C'est une lenteur qualitative qui enrichit chaque instant au lieu de les multiplier vainement. La voix poétique cultive une forme particulière de solitude que nous pourrions qualifier de créatrice. Il ne s'agit pas de la solitude négative, de l'isolement ou de l'exclusion, mais de cette solitude positive qui permet la rencontre avec soi-même et paradoxalement avec l'univers, avec l'universel humain. Cette solitude créatrice constitue la condition nécessaire de toute création authentique. Elle offre l'espace intérieur indispensable pour que puissent germer les intuitions, mûrir les images, s'épanouir les visions. Dans le silence de cette solitude, l'âme peut enfin s'entendre penser, sentir battre son cœur profond, percevoir les voies secrètes qui l'habitent. Mais cette solitude n'isole pas du monde. Elle permet au contraire une communion plus profonde avec lui. Débarrassé des bavardages superficiels et des obligations sociales, le solitaire peut enfin entendre ce que lui dit le monde dans son langage authentique. Il découvre que la vraie communication ne passe pas nécessairement par les mots, mais peut s'établir par le silence de la contemplation partagée. Cette solitude créatrice débouche paradoxalement sur la découverte d'une fraternité invisible qui unit tous les vrais poètes par-delà les siècles et les frontières. En explorant sa solitude jusqu'au bout, le poète découvre qu'il n'est pas seul. Il appartient à une lignée séculaire de témoins et de visionnaires. Cette fraternité ne s'exprime pas dans des institutions visibles ou des organisations formelles, mais dans cette communion spirituelle qui s'établit spontanément entre tous ceux qui partagent la même passion pour la beauté et la vérité. Le lecteur de Rilke entre en communion avec le lecteur de Baudelaire. L'amateur des haïkus japonais fraternise avec l'amoureux des sonnets de Shakespeare. Cette fraternité invisible constitue une véritable église sans dogme ni hiérarchie, une communauté spirituelle fondée sur la seule reconnaissance mutuelle des âmes poétiques. Elle offre à ses membres un sentiment d'appartenance plus profond que toutes les solidarités sociologiques, car elle unit des êtres au niveau de leurs aspirations les plus hautes. Cette communion des solitaires assure une forme particulière de transmission que nous pourrions qualifier de silencieuse. Il ne s'agit pas de la transmission académique qui se contente de transmettre des savoirs, mais de cette transmission initiatique qui communique une qualité d'être, un art de vivre, une manière d'habiter le monde. Cette transmission s'opère par contagion bienveillante plutôt que par enseignement explicite. Un poème authentique contamine son lecteur de sa beauté. Un regard contemplatif éveille la contemplation chez celui qui le croise. Une parole juste résonne longtemps dans la mémoire de celui qui l'entend. Cette transmission silencieuse explique la pérennité de la tradition poétique, malgré toutes les tentatives pour la marginaliser ou la liquider, elle se perpétue par cette chaîne invisible qui unit les générations de poètes et leurs lecteurs. Chaque nouveau poète authentique renoue les fils de cette tradition et la transmet à son tour aux générations suivantes. La voix poétique refuse aussi bien la fuite dans la tour d'ivoire que l'engagement partisan. Elle propose un troisième chemin, celui de l'engagement poétique dans le monde. Cet engagement ne consiste pas à mettre la poésie au service d'une cause extérieure, mais à faire de la poésie elle-même une cause à défendre, la dimension poétique de l'existence contre toutes les forces qui la menacent. Cet engagement poétique s'exprime d'abord par la qualité même de l'œuvre créée. Un poème authentique constitue en lui-même un acte de résistance contre la barbarie, un témoignage en faveur de l'humanité authentique, une affirmation de possibilité alternative à l'existant. Il n'a pas besoin de prendre parti explicitement pour exercer une influence transformatrice sur la conscience collective. Cet engagement se manifeste également dans le refus de certaines facilités. Refuser les réseaux sociaux quand ils dénaturent le message poétique, c'est un acte d'engagement. Choisir l'exigence contre la démagogie, la profondeur contre la superficialité, la beauté contre l'efficacité immédiate, c'est prendre position dans une certaine conception de l'humanité. Dans un monde dominé par la logique économique et technique, la simple persistance de la poésie constitue une forme de résistance spirituelle. Elle maintient vivantes des valeurs que la modernité tend à liquider. La gratuité contre l'utilité, la contemplation contre l'action, la qualité contre la quantité, l'être contre l'avoir. Cette résistance ne s'exprime pas dans la protestation ou la revendication, mais dans l'affirmation tranquille d'autres possibles. Face à l'uniformisation croissante du monde, la poésie maintient la diversité des langages. Face à la standardisation des expériences, elle cultive la singularité des visions. Face à la réduction de l'humain à ses fonctions économiques, elle révèle sa dimension créatrice. Cette résistance poétique opère par la beauté, plus que par la force, par la suggestion, plus que par l'argumentation. Par exemple, par l'exemple, plus que par le précepte, elle convainc en charmant, elle transforme en enchantant, elle libère en révélant d'autres possibles que ceux imposés par la logique dominante. L'engagement poétique dans le monde implique également une dimension écologique. Non pas seulement l'écologie environnementale, mais ce que nous pourrions appeler une écologie spirituelle, soucieuse de préserver les conditions nécessaires à l'épanouissement de l'âme humaine. Cette écologie poétique lutte contre toutes les pollutions qui menacent l'environnement spirituel. La pollution sonore, qui empêche le silence, nécessaire à la contemplation, la pollution visuelle, qui sature le regard jusqu'à l'aveuglement, la pollution informationnelle, qui encombre l'esprit jusqu'à la paralysie. Elle prône également une forme de développement durable de l'âme, respectueux des rythmes naturels de croissance spirituelle, attentif aux équilibres délicats de la vie intérieure, soucieux de transmettre aux générations futures un patrimoine spirituel non dégradé. L'automne me présente à la joie. Cette phrase résume parfaitement l'art de vivre poétique qui se trouve dans chaque saison de l'existence, même les plus mélancoliques, une source de joie spécifique. L'automne intérieur n'est plus l'âge de la décadence, mais celui de la maturité spirituelle, de la sagesse conquise, de la beauté apaisée. Cette sagesse, automnale, ne fuit pas la mélancolie, mais la transfigure. Elle découvre dans la tristesse acceptée une qualité de joie inconnue, de l'euphorie superficielle. Elle révèle que les sentiments les plus profonds naissent souvent du mélange subtil de joie et de tristesse, d'amour et de nostalgie, d'espérance et de renoncement. Cette esthétique de l'automne intérieur nous apprend à valoriser ce que notre époque tend à déprécier. La maturité contre le jeunisme, la profondeur contre l'immédiateté, la sagesse contre l'information, l'expérience contre la nouveauté. Elle révèle que les plus grandes joies ne sont pas celles du commencement, mais celles de l'accomplissement. Si l'automne représente le temps de la maturité, l'hiver intérieur incarne celui du recueillement nécessaire. Cette saison spirituelle, souvent redoutée parce qu'associée à la mort et au vide, se révèle indispensable à la croissance de l'âme. Elle offre le silence et la nudité nécessaires pour que puissent germer dans l'invisible les forces du renouveau. Cet hiver intérieur ne doit pas être confondu avec la dépression ou le nihilisme. Il s'agit au contraire d'un dépouillement créateur, d'un jeûne spirituel, qui prépare de nouvelles nourritures, d'une descente aux enfers qui conditionne une renaissance. C'est le temps de l'essentiel, quand tombent tous les masques et toutes les illusions. La sagesse poétique apprend à accueillir ces hivers intérieurs sans les fuir ni les dramatiser. Elle y découvre une qualité particulière de paix, cette paix profonde qui naît de l'acceptation de ce qui est, de l'abandon de ce qui n'est plus, de l'ouverture à ce qui vient. Après l'hiver vient nécessairement le printemps, cette saison de renaissance qui justifie rétrospectivement, tous les dépouillements intérieurs. Le printemps intérieur n'est pas seulement retour à la vie, mais accession à une vie nouvelle, enrichie par l'expérience de la mort symbolique. Cette renaissance ne reproduit pas l'innocence première, mais accède à une innocence seconde, conquise par l'expérience et éprouvée par la souffrance. C'est l'innocence du sage qui a tout traversé et qui peut enfin regarder le monde avec des yeux neufs, débarrassé des illusions, mais non de l'émerveillement. Le printemps poétique se caractérise par cette capacité renouvelée d'étonnement qui permet de redécouvrir la beauté du monde comme si on la voyait pour la première fois. Il révèle que la vraie jeunesse n'est pas affaire d'âge, mais de qualité du regard, de fraîcheur de l'âme, de capacité d'accueil de l'inattendu. L'été intérieur représente le temps de la plénitude, quand toutes les potentialités développées au printemps atteignent leur épanouissement. Cette saison spirituelle ne correspond pas nécessairement à un âge biologique particulier, mais peut advenir à tout moment de l'existence quand se réalise l'accord parfait entre l'être et son destin. Cette plénitude estivale ne doit pas être confondue avec la satisfaction bourgeoise ou l'autosatisfaction narcissique. Il s'agit au contraire d'une plénitude ouverte, consciente de sa fragilité, reconnaissante de sa chance, généreuse de ses dons. C'est la plénitude de celui qui sait qu'il a reçu plus qu'il ne méritait et qui cherche à partager ses richesses. L'été poétique se caractérise par cette générosité naturelle qui rayonne sans calcul, cette bienveillance spontanée qui embrasse le monde, cette joie communicative qui élève tous ceux qu'elle touche. Il révèle que la vraie réussite d'une existence se mesure non à ce qu'elle a accumulé, mais à ce qu'elle a donné. La voie poétique propose une approche originale de la mort. Ni fuite anxieuse, ni fascination morbide, mais reconnaissance lucide et apaisée de la finitude constitutive de l'existence humaine. Cette approche transforme la conscience de la mort en maître de vérité qui éclaire toute l'existence et lui donne son prix unique. Cette sagesse mortelle ne cultive pas l'angoisse existentielle, mais la transforme en urgence créatrice. Savoir que tout passe donne une intensité particulière à ce qui est. savoir que rien ne dure, incite à savourer pleinement l'instant présent. Savoir que tout fini révèle la beauté tragique de ce qui commence. Je monte les marches une à une, le dos lourd d'une vie longuement vécue. Enfin léger, percevrai-je en l'instant la vie telle que je l'aurais dû. Disait également quelques vers de mon poème. Et qui exprime parfaitement cette transformation de la lourdeur existentielle en légèreté spirituelle par l'acceptation de la finitude. La méditation poétique sur la mort révèle paradoxalement le sens de la vie. Elle nous apprend que ce n'est pas la durée qui fait la valeur d'une existence, mais son intensité, sa qualité, sa beauté. Une vie brève, mais pleinement vécue, vaut mieux qu'une longue existence gaspillée dans la distraction perpétuelle. Cette révélation transforme complètement notre rapport au temps. Au lieu de chercher à accumuler les années, nous apprenons à enrichir les instants. Au lieu de fuir le passage du temps, nous apprenons à l'habiter créativement. Au lieu de regretter ce qui passe, nous apprenons à célébrer ce qui advient. Cette sagesse mortelle nous enseigne également l'art de l'essentiel. Face à la brièveté de l'existence, les futilités apparaissent pour ce qu'elles sont, et tombent d'elles-mêmes. Seul demeure ce qui mérite vraiment notre attention, l'amour, la beauté, la vérité, la création. La voie poétique révèle que la finitude, loin d'être un obstacle à la création, en constitue au contraire la condition nécessaire. C'est parce que nous sommes mortels que nous créons. C'est parce que tout passe que nous cherchons à fixer quelque chose d'éternel. C'est parce que nous sommes limités que nous aspirons à dépasser nos limites. Cette finitude créatrice explique pourquoi les plus grandes œuvres d'art naissent souvent de la conscience aiguë de la fragilité. Les poèmes les plus bouleversants sont ceux qui parviennent à exprimer l'ineffable de l'existence humaine dans sa condition mortelle. Les musiques les plus émouvantes sont celles qui font entendre le passage du temps dans leur mélodie même. L'art poétique de la finitude nous apprend également que ce n'est pas la perfection qui touche le plus, mais la beauté imparfaite, marquée par la trace du temps et de l'usure. Une beauté trop parfaite reste froide et distante. Une beauté marquée par la fragilité entre en résonance avec notre propre condition mortelle et nous émeut plus profondément. L'humanité se trouve aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire. Les développements de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie, des neurosciences remettent en question les fondements mêmes de ce que nous appelons humanité. Dans ce contexte, la défense de la dimension poétique de l'existence devient un enjeu crucial pour l'avenir de notre espèce. Face à des machines de plus en plus performantes dans des domaines traditionnellement réservés à l'intelligence humaine, la créativité poétique pourrait bien constituer le dernier bastion de la spécificité humaine. Non parce qu'elle serait irréductible à l'algorithme, l'avenir le dira, mais parce qu'elle représente cette dimension de gratuité, de beauté, de sens, qui constitue peut-être l'essence même de ce que nous voulons préserver d'humain en nous. La voie poétique devra donc relever le défi de maintenir vivante cette spécificité humaine face à une technologie de plus en plus envahissante. Elle devra prouver que la contemplation a sa place dans un monde d'action, que sa lenteur a sa valeur dans une époque d'accélération, que la beauté a son utilité dans une civilisation d'efficacité. Dans ce combat pour l'avenir de l'humain, la poésie assume une mission prophétique. Elle doit annoncer d'autres possibles que ceux proposés par la logique techno-économique dominante. Elle doit témoigner de valeurs menacées mais non obsolètes. Elle doit incarner des manières d'être et de vivre qui pourraient sembler dépassées mais qui restent nécessaires à l'équilibre de l'âme humaine. Cette mission prophétique ne consiste pas à prédire l'avenir, mais à maintenir ouvert l'éventail des possibles. En cultivant la dimension contemplative de l'existence, la poésie empêche que l'humanité ne s'enferme dans un seul modèle de développement. En célébrant la beauté gratuite, elle résiste à l'utilitarisme généralisé. En pratiquant la lenteur créatrice, elle s'oppose à l'accélération destructrice. Cette fonction prophétique explique pourquoi la poésie résiste si bien à toutes les tentatives de liquidation. Elle répond à un besoin anthropologique fondamental qui ne peut être satisfait par aucun substitut technique. Tant qu'il y aura des êtres humains, il y aura besoin de cette parole particulière qui transfigure l'existence en lui révélant sa dimension de beauté et de sens. Ce manifeste se conclut sur une note d'espérance, non pas l'espérance naïve qui ferme les yeux sur les périls, mais cette espérance lucide qui naît de la confiance dans les ressources créatrices de l'esprit humain. Malgré tous les défis, toutes les menaces, toutes les incertitudes qui pèsent sur l'avenir, la beauté continue de naître, l'émerveillement continue de surgir, la création continue de jaillir. Cette espérance poétique se nourrit de l'expérience millénaire de l'humanité. À travers toutes les crises, toutes les guerres, toutes les catastrophes, la flamme poétique ne s'est jamais éteinte. Elle a survécu à tous les totalitarismes, résisté à tous les obscurantismes, traversé toutes les barbaries. Elle témoigne de cette part indestructible de l'humain qui refuse de se laisser réduire aux déterminations biologiques, économiques ou techniques. Cette espérance nous invite à continuer l'œuvre, à écrire, à contempler, à transmettre, à maintenir vivante cette tradition poétique qui constitue peut-être le plus bel héritage de l'humanité, à faire de notre propre existence un poème en acte, une œuvre d'art vivante, une célébration de la beauté du monde. Car au bout du compte, c'est peut-être cela la vraie révolution, non pas changer le monde par la force, mais le transfigurer par la beauté. Non pas imposer une vision, mais en révéler la possibilité, non pas contraindre, mais plutôt charmer. Non pas détruire l'ancien, mais faire naître le nouveau. J'écrivais « Il n'y a rien que tu puisses faire qui changera la fin » dans un de mes derniers poèmes publiés ce mois de septembre sur voixpoétiques.com. Ces mots mystérieux qui concluent le poème « Marche » ne sont pas un message de résignation, mais plutôt de libération. Il nous libère de l'illusion de toute puissance pour nous ouvrir à la vraie puissance, celle qui transforme non pas les événements extérieurs, mais la qualité de notre présence à ces événements. Il nous invite à passer de l'agir au contempler, de l'avoir à l'être, du faire au laisser advenir. Dans cet esprit de contemplation active, de résistance créatrice, de beauté militante, que nous poursuivons notre chemin sur la voie poétique, avec la certitude que chaque vers écrit en vérité, chaque instant vécu en conscience, chaque regard posé en amour, contribue à maintenir vivante cette part d'éternité qui fait de nous des êtres humains. Que cette voie demeure ouverte pour tous ceux qui cherchent à habiter poétiquement le monde. Une dernière phrase. Dans le silence de cette contemplation, l'âme peut enfin s'entendre penser, sentir battre son cœur profond, percevoir les voix secrètes qui l'habitent. Chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre cette longue méditation de plusieurs mois pour moi, voire peut-être même d'années, puisque ce manifeste s'est construit à l'intérieur de moi, au fil des années, des événements et de ce qui a été vécu. Et je vous en parle depuis un certain temps, un ouvrage va sortir très bientôt. Ce qui a pris forme dans mon esprit à travers ce manifeste, c'est que cet ouvrage, je vous l'annonce d'ores et déjà, s'appellera « La voix poétique », très simplement, comme le site, et proposera en lecture papier ce manifeste qui sera lui-même entrecoupé des poésies présentes sur le site et d'autres poésies non encore publiées. J'espère arriver à le sortir pour la fin de cette année 2025. Si je n'y arrive pas, ça sera dans le courant 2026 au grand maximum. Je vous tiendrai informé, bien sûr, à travers ce podcast et sur le site voixpolitique.com. J'aimerais avoir vos retours sur ce manifeste. Vous m'écrivez déjà assez fréquemment. Je vous remercie d'ailleurs encore une fois, tant pour les mails que pour les lettres, d'ailleurs. Mais je pense aujourd'hui publier par ce manifeste un de mes actes les plus importants. Important pour moi-même, puisqu'il est le fruit de ma réflexion, mis en mots, couché sur le papier, mais aussi également pour l'humanité. Je vous laisse avec ces dernières phrases et je vous retrouverai bientôt pour un nouvel épisode de Voix Poétique. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.